monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Pour cette 17e édition de Le Monde est beau, consacrée à l'initiative pour des multinationales responsables, nous vous proposons de plonger dans trois articles qui touchent de près au sujet. Les deux premiers sont tirés d'un dossier du magazine Perspective, édité en mars 2018 par Pain pour le Prochain et Action de Carême, consacré à cette initiative et dont le titre est éloquent « Agir avant qu'il ne soit trop tard ». Le premier des articles, La longue attente, signée par Lawrence Kummer, traite des agissements de Glencore qui procède à l'extraction du cuivre et du cobalt dans la ville de Kolwezi, en République démocratique du Congo. Le deuxième, plus d'équité dans le casino mondial des matières premières, reste en Afrique et nous parle de la chasse aux matières premières sur ce continent. Il est signé par Peter Nigli. Vous entendrez par la suite un texte de Benoît Bréville et Martine Bullard, édité dans Le Monde diplomatique en juin 2014. Cet article, dont le titre est « Des tribunaux pour détrousser les États », dresse une analyse sur comment certaines multinationales traînent les États en justice parce qu'ils prennent des décisions politiques qui défavorisent les affaires ou les affairistes des multinationales.
La longue attente. Tout autour de la ville de Kolwezi, République démocratique du Congo, la multinationale suisse Glencore procède à l'extraction du cuivre et du cobalt. La population souffre de la pollution et n'a pas suffisamment accès à l'eau. Il est urgent de mettre en place un meilleur devoir de diligence. Peu importe où se pose le regard, ils sont partout. Les bidons en plastique jaune criard gisent à chaque coin de rue. Les enfants et les femmes les emportent partout avec eux. Attachés par une ficelle et se balançant lâchement par-dessus les épaules tant qu'ils sont vides, puis lourds comme du plomb au bout des bras tendus lorsqu'ils sont pleins. De cette façon, personne ne peut emporter plus de deux à la fois, sauf si on les attache à l'un des vélos qui envahissent les rues la nuit. Car à un moment quelconque, entre 15 et 19 heures, de l'eau coule environ 2 heures dans la seule conduite qui traverse Moussonoï. Les femmes et les enfants affluent alors vers les points de puisage, remplissent les bidons, et les transporteurs à vélo font leurs affaires. Une course coûte 500 francs congolais, soit 30 centimes de francs suisses. Celui qui n'a pas les sous doit avoir des muscles, ou la nuque puissante. Promesse non tenue. Quelques 50 000 personnes vivent à Moussonoï, un quartier de la ville de Kolwezi, au sud-est du Congo. Les maisons sont serrées, encerclée sur trois côtés par la mine de cuivre et de cobalt de la filiale de Glencore, Kamoto Copper Company, KCC. La société minière suisse contrôle près de 30% de la production mondiale de cobalt, dont le prix a triplé depuis le début de 2017. Cette progression s'explique par le boom de la mobilité électrique et la demande en batterie avec une grande autonomie, dans lesquelles la présence de cobalt est très importante. Ce minerai bleu offre à Glencore des produits substantiels et permet aux voitures Tesla et aux vélos électriques de ronronner sur les routes sans émissions de gaz. Mais les habitantes et habitants de Moussonoï ne voient rien de la richesse qui gît sous leur maison. KCC ne fait pas grand-chose pour nous, déplore Jean Kassongo à la tête d'un comité de citoyens soutenu par AfriWatch, une organisation partenaire de Pain pour le Prochain et Action de Carême. Glencore avait promis d'améliorer l'approvisionnement en eau d'ici fin 2017, mais rien ne s'est passé. KCC a simplement construit 3 stations d'eau de l'autre côté de sa concession. Pollution à la poussière fine. Pour Berthe Mapala, cette situation implique chaque jour 3 à 4 heures de travail. Cette mère de 8 enfants a besoin d'au moins 10 bidons pour sa famille, qu'elle doit remplir et porter à la maison, car elle ne peut pas se payer le prix du transport par vélo. C'est le cas de nombreuses personnes dans le quartier, explique Jean Kassongo. Près de 80% des maisons ici n'ont pas d'accès direct à l'eau. Mais l'eau n'est pas le seul sujet de préoccupation des habitantes et habitants de Moussonoï. Régulièrement, le vent pousse des nuages de poussière en provenance des terrils sur les maisons et les jardins. les routes en terre battue, sur lesquelles vrombissent jour après jour des centaines de camions allant et venant des mines, sont encore pires. Des nuages de fine poussière rouge assombrissent la vue, se déposent sur les maisons, les arbres et les plantes et pénètrent dans les poumons des gens. Durant la saison sèche, beaucoup de gens souffrent de toux et de bronchites, raconte l'infirmière Véronique Kakoma Mouika. Ce n'est pas étonnant. Des mesures réalisées par Pain pour le Prochain et Action de Carême ont relevé des charges de poussière fine allant jusqu'à 500 microgrammes par mètre cube, soit 20 fois plus que la valeur limite moyenne journalière fixée par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons déjà demandé plusieurs fois à KCC d'asphalter les rues, déclare Jean Kassongo, sans succès. Les gens de Glencore ont à chaque fois répondu qu'une telle démarche relevait de l'État congolais, auquel ils payaient des impôts. Et ils ont indiqué qu'ils soutenaient les écoles, les coopératives agricoles et les centres de formation professionnelle. C'est exact. Toutefois, l'entreprise ne prend pas en compte les vrais besoins de Moussonneuil, car ceux-ci sont beaucoup plus onéreux. L'accès à l'eau et la fin de la pollution liée à la poussière. Autre problème. Les rejets en provenance de la mine de Glencore polluent constamment les rivières et les sols. Entre 2012 et 2014, des métaux lourds ont contaminé la rivière Louilou. En décembre 2017, Moussonneuil a été envahi par une coulée de boue. Enfin, en février dernier, une fuite dans la mine a pollué les sols ainsi que les jardins de plus de 400 ménages dans un quartier de la ville de Louilou. Certes, Glencore paye des dédommagements, mais les fuites répétées et les problèmes constants liés à la poussière et à l'eau montrent que la multinationale n'en fait pas assez pour protéger la population. C'est justement à ça que pourrait remédier le devoir de diligence globale tel que le prévoit l'initiative pour des multinationales responsables. Il obligerait Glencore à mieux analyser les risques, à prendre des mesures pour les empêcher et à communiquer de manière transparente à ce sujet. Emmanuel Umpala, directeur d'AfriWatch, place lui aussi de grands espoirs dans l'initiative. Au Congo, on ne peut avoir aucune confiance dans l'État et les entreprises. L'initiative suisse tombe à pic, car elle peut aider les gens à améliorer leur situation et à faire respecter leurs droits. Plus d'équité dans le casino mondial des matières premières. Nulle part, la chasse aux matières premières n'est aussi intense qu'en Afrique. Si, et seulement s'il y a une valeur ajoutée plus grande sur place et que les multinationales respectent les droits humains et les normes environnementales, il reste alors aux États et à la population une part équitable de leur propre richesse. Si l'initiative pour des multinationales responsables aboutit, aucune entreprise ne pourra plus investir dans des pays difficiles et créer des places de travail là-bas, ne cesse de menacer les opposantes et opposants au texte. Par le terme « difficile », ils entendent des pays où il existe bien des lois, mais aucune institution pour les faire respecter, où les services publics sont mauvais et les autorités ainsi que les politiciens corrompus. Mais est-ce que vraiment aucun groupe suisse n'investirait plus dans des pays africains difficiles si l'initiative était acceptée? On peut en douter. Premièrement, car ces difficultés existent dans la plupart des pays du Sud, et c'est là que les multinationales trouvent ce qu'elles cherchent, de la main-d'œuvre, des terres et des matières premières bon marché, de grands débouchés commerciaux et des lois laxistes en matière d'environnement et de travail. Deuxièmement, l'Afrique dispose de nombreux minerais non renouvelables et de sources énergétiques fossiles. C'est le fournisseur principal de matières stratégiquement importantes comme le chrome, le cobalt, le manganèse et le platine. Sa richesse en ressources naturelles intéresse aussi les multiples sociétés minières et négociants en matières premières qui ont transféré leur siège principal en Suisse durant ces 30 dernières années. Troisièmement, l'Afrique, avec sa population d'un milliard de personnes, passe depuis quelques années pour être le futur géant économique, l'Asie du XXIe siècle. Le chef économiste de la Banque africaine de développement a annoncé qu'un habitant ou une habitante d'Afrique sur trois appartenait déjà à la classe moyenne et que le continent allait bientôt décoller. Selon le cabinet de conseil McKinsey, les rendements des investissements directs étrangers dans les pays africains sont plus élevés que ceux des autres pays en développement. Les gestionnaires et investisseurs actifs au niveau mondial devraient prendre ce fait en compte. Condamné à fournir des matières premières. Jusqu'à peu, l'extraction des matières premières offrait des rendements particulièrement élevés. En 2013, l'ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU, l'UNECA, Carlos López, déplorait que l'Afrique ne transforme que beaucoup trop peu ses matières premières pour pouvoir influencer les prix. Elle devait prendre ce qu'on lui offrait. Lors du point culminant du boom des matières premières en 2010, les multinationales auraient, selon Carlos López, augmenté leur rendement de 156% sur le plan mondial. Par contre, les taxes versées au gouvernement n'auraient progressé que de 60% et le Canada et l'Australie en auraient retiré la part du lion. Les gouvernements africains n'ont eu droit qu'à des miettes, car de nombreuses entreprises se sont réservées des contrats d'exploitation et d'extraction généreux, ainsi que des rabais d'impôts. À titre de contre-mesure, l'UNECA et l'Union africaine ont créé l'African Mining Vision, la vision minière pour l'Afrique. Voici ses propositions majeures. Renégocier les contrats régissant les investissements étrangers dans le secteur des matières premières, mieux les mettre en relation avec des entreprises et des chaînes de création de valeur locales, et augmenter les redevances de multinationales à l'État. La Zambie a ainsi relevé les impôts qu'elle demande aux entreprises minières. D'autres pays ont réexaminé leurs contrats et les ont même en partie renégociés. Jusqu'à présent, les pays d'Afrique ont peu profité de leurs richesses naturelles, en comparaison avec des pays d'Asie ou d'Amérique latine similaires. Et leurs économies se trouvent, comme auparavant, tout au bas du classement du Country Complexity Ranking, un index qui recense la diversité et la complexité économique des pays. Les démarches volontaires restent rares. À cela s'ajoute le fait que les violations des droits humains et de l'environnement sont particulièrement fréquentes dans les commerces des matières premières. Il existe pourtant bien un droit international faible qui dicte par exemple que les personnes sur place devraient impérativement être intégrées dans la planification des projets. Mais, bien souvent, personne n'applique ce droit. La Suisse, qui concentre de nombreuses multinationales actives dans les matières premières, a sa responsabilité dans ce qui se passe. Malgré tout, le Conseil fédéral privilégie encore et toujours les engagements volontaires à respecter les droits humains, comme le pacte mondial de l'ONU. En Suisse, 118 entreprises au total ont adhéré à ce pacte. Une faible participation si l'on songe que le gouvernement a encouragé de manière soutenue les entreprises à agir sur une base volontaire. Sur les 10 entreprises non actives dans la finance ayant le chiffre d'affaires le plus élevé, seules 4 ont rejoint le pacte mondial, dont Glencore et Trafigura. Elles l'ont fait en 2014 et 2015, après avoir été l'objet de critiques publiques. L'initiative pour des multinationales responsables et son contre-projet, tel qu'approuvé par le Conseil national, vont beaucoup plus loin et responsabiliseraient mieux les grandes entreprises ainsi que toutes celles qui, jusqu'à présent, n'ont absolument rien fait.
ITT International TV International TV International TV Des multinationales qui traînent des États en justice pour imposer leurs lois et faire valoir leurs droits, cela ne relève pas du fantasme. On compte déjà plus de 500 cas dans le monde. Il a suffi de 31 euros pour que le groupe français Veolia parte en guerre contre l'une des seules victoires du printemps 2011, remportée par les Égyptiens. L'augmentation du salaire minimum de 400 à 700 livres par mois, de 41 à 72 euros. Une somme jugée inacceptable par la multinationale, qui a porté plainte contre l'Égypte le 25 juin 2012, devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, une officine de la Banque mondiale. Motif invoqué, la nouvelle loi sur le travail contreviendrait aux engagements pris dans le cadre du partenariat public-privé signé avec la ville d'Alexandrie pour le traitement des déchets. Le grand marché transatlantique, en cours de négociation, pourrait inclure un dispositif permettant ainsi à des entreprises de poursuivre des pays. C'est en tout cas le souhait des États-Unis et des organisations patronales. Tous les gouvernements signataires pourraient alors se trouver exposés aux mésaventures égyptiennes. Le lucratif filon du règlement des différends entre investisseurs et États a déjà assuré la fortune de nombreuses sociétés privées. En 2004, le groupe américain Cargill a par exemple fait payer 90,7 millions de dollars, 66 millions d'euros, au Mexique, reconnu coupable d'avoir créé une nouvelle taxe sur les sodas. En 2010, la Tampa Electric a obtenu 25 millions de dollars du Guatemala en s'attaquant à une loi plafonnant les tarifs de l'électricité. Plus récemment, en 2012, le Sri Lanka a été condamné à verser 60 millions de dollars à la Deutsche Bank en raison de la modification d'un contrat pétrolier. Encore en cours, la plainte de Veolia a été déposée au nom du traité d'investissement conclu entre la France et l'Égypte, signé entre deux pays ou inclus dans des accords de libre-échange. Il existe plus de 3000 traités de ce type dans le monde. Ils protègent les sociétés étrangères contre toute décision publique, une loi, un règlement, une norme qui pourrait nuire à leurs investissements. Les régulations nationales et les tribunaux locaux n'ont plus droit de citer. Le pouvoir se voyant transféré à une cour supranationale qui tire sa puissance de la démission des États. Au nom de la protection des investissements, les gouvernements sont sommés de garantir trois grands principes. 1. L'égalité de traitement des sociétés étrangères et des sociétés nationales, rendant impossible une préférence pour les entreprises locales qui défendent l'emploi, par exemple. 2. La sécurité de l'investissement. Les pouvoirs publics ne peuvent pas changer les conditions d'exploitation, exproprier sans compensation ou procéder à une expropriation indirecte. 3. La liberté pour l'entreprise de transférer son capital. Une société peut sortir des frontières avec armes et bagages, mais un État ne peut pas lui demander de partir. Les recours des multinationales sont traités par l'une des instances spécialisées. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la Cour permanente de l'AE, certaines chambres de commerce, etc. Les États et les entreprises ne peuvent le plus souvent pas faire appel des décisions prises par ces instances. À la différence d'une cour de justice, une cour d'arbitrage n'est pas tenue d'offrir un tel droit. Or, l'écrasante majorité des pays ont choisi de ne pas inscrire la possibilité de faire appel dans leurs accords. Si le traité transatlantique inclut un dispositif de règlement des différends entre investisseurs et États, ces tribunaux verront, en tout cas, leur emploi du temps bien garni. Il existe 24 000 filiales de sociétés européennes aux États-Unis et 50 800 succursales américaines sur le vieux continent. Chacune aurait la possibilité d'attaquer les mesures jugées nuisibles à ses intérêts. Voilà près de 60 ans que des sociétés privées peuvent attaquer des États. Le procédé a longtemps été peu utilisé. Sur les quelques 550 contentieux recensés à travers le monde depuis les années 1950, 80% ont été déposés entre 2003 et 2012. Pour l'essentiel, ils émanent d'entreprises du Nord. Les trois quarts des réclamations traitées par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements viennent des États-Unis et de l'Union européenne et visent des pays du Sud, 57% des cas. Les gouvernements qui veulent rompre avec l'orthodoxie économique, comme ceux de l'Argentine ou du Venezuela, sont particulièrement exposés. Les mesures prises par Buenos Aires pour faire face à la crise de 2001, contrôle des prix, limitation de sortie des capitaux, ont été systématiquement dénoncées devant les cours d'arbitrage. Arrivés au pouvoir après des émeutes meurtrières, les présidents Eduardo Duhalde puis Néstor Kirchner n'avaient pourtant aucune visée révolutionnaire. Ils cherchaient à parer à l'urgence. Mais le groupe allemand Siemens, soupçonné d'avoir soudoyé des élus peu scrupuleux, s'est retourné contre le nouveau pouvoir, lui réclamant 200 millions de dollars, quand celui-ci a contesté des contrats passés par l'ancien gouvernement. De même, la Saur, une filiale de Bouygues, a protesté contre le gel du prix de l'eau au motif que celui-ci portait atteinte à la valeur de l'investissement. 40 plaintes ont été déposées contre Buenos Aires dans les années qui ont suivi la crise financière, 1998-2002. Une dizaine d'entre elles ont abouti à la victoire des entreprises pour une facture totale de 430 millions de dollars. Et la source n'est pas tarie. En février 2011, l'Argentine affrontait encore 22 plaintes, dont 15 liées à la crise. Depuis 3 ans, l'Égypte se trouve sous les feux des investisseurs. Selon une revue spécialisée, le pays est même devenu le premier destinataire des recours de multinationales en 2013. Pour protester contre ce système, certains pays, tels le Venezuela, l'Équateur ou la Bolivie, ont annulé leurs traités. L'Afrique du Sud songe à suivre cet exemple, sans doute échaudé par le long procès qu'il a opposé à la compagnie italienne Piero Foresti, Laura De Carli et autres au sujet du Black Economic Empowerment Act. Cette loi, octroyant aux Noirs un accès préférentiel à la propriété des mines et des terres, était jugée par les Italiens contraire à l'égalité de traitement entre des entreprises étrangères et les entreprises nationales. Étrange égalité de traitement que ces patrons européens revendiquent alors que les Noirs sud-africains, qui représentent 80% de la population, ne possèdent que 18% des terres et que 45% vivent sous le seuil de pauvreté. Ainsi va la loi de l'investissement. Le procès n'est pas allé jusqu'au bout. En 2010, Pretoria a accepté d'ouvrir des concessions aux demandeurs transalpins. Ainsi, un jeu gagnant-perdant s'impose à tous les coups. Soit les multinationales reçoivent de lourdes compensations, soit elles contraignent les États à réduire leurs normes dans le cadre d'un compromis ou pour éviter un procès. L'Allemagne vient d'en faire l'amère expérience. En 2009, le groupe public suédois Vattenfall dépose plainte contre Berlin, lui réclamant 1,4 milliard d'euros au motif que les nouvelles exigences environnementales des autorités de Hambourg rendent son projet de centrale au charbon anti-économique. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements juge la protestation recevable et, après moult batailles, un arrangement judiciaire est signé en 2011. Il débouche sur un adoucissement des normes. Aujourd'hui, Vattenfall poursuit la décision de Mme Angela Merkel de sortir du nucléaire d'ici à 2022. Aucun montant n'est officiellement avancé, mais dans son rapport annuel de 2012, Vattenfall chiffre la perte due à la décision allemande à 1,18 milliard d'euros. Bien sûr, il arrive que les multinationales soient déboutées. Sur les 244 cas, jugés fin 2012, 42% ont abouti à la victoire des États, 31% à celle des investisseurs, et 27% ont donné lieu à un arrangement. Elles perdent alors les millions engagés dans la procédure. Mais des « profiteurs de l'injustice », pour reprendre le titre d'un rapport de l'association Corporate Europe Observatory, attendent de récupérer le magot. Dans ce système taillé sur mesure, les arbitres des instances internationales et les cabinets d'avocats s'enrichissent, peu importe l'issue du procès. Pour chaque contentieux, les deux parties s'entourent d'une batterie d'avocats, choisis au sein des plus grandes entreprises, et dont les émoluments oscillent entre 350 et 700 euros de l'heure. Les affaires sont ensuite jugées par 3 arbitres. L'un est désigné par le gouvernement accusé, l'autre par la multinationale accusatrice et le dernier le président, en commun par les deux parties. Nul besoin d'être qualifié habilité ou appointé par une cour de justice pour arbitrer ce type de cas. Une fois choisi, l'arbitre reçoit entre 275 et 510 euros de l'heure, parfois beaucoup plus, pour des affaires dépassant fréquemment les 500 heures, ce qui peut susciter des vocations. Les arbitres masculins à 96% proviennent pour l'essentiel de grands cabinets d'avocats européens ou nord-américains, mais ils ont rarement le droit pour seule passion. Avec 30 cas à son actif, le Chilien Francisco Orrego Vicuña fait partie des 15 arbitres les plus sollicités. Avant de se lancer dans la justice commerciale, il a occupé d'importantes fonctions gouvernementales pendant la dictature d'Augusto Pinochet. Lui aussi, membre de ce top 15, le juriste et ancien ministre canadien Marc Lalonde est passé par les conseils d'administration de Citibank Canada et d'Air France. Son compatriote L. Yves Fortier a, quant à lui, navigué entre la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, le cabinet Ogilvy Renault et les conseils d'administration de Nova Chemicals Corporation, Alcon ou Rio Tinto. Siégé au conseil d'administration d'une société cotée en bourse, et j'ai siégé au conseil de nombre d'entre elles, m'a aidé dans ma pratique de l'arbitrage international, confiait-il dans un entretien. Ça m'a donné une vue sur le monde des affaires que je n'aurais pas eue en tant que simple avocat. Un véritable gage d'indépendance. Une vingtaine de cabinets, principalement américains, fournissent la majorité des avocats et arbitres sollicités pour les règlements des différends entre investisseurs et États. Intéressés à la multiplication de ce genre d'affaires, ils traquent la moindre occasion de porter plainte contre un État. Pendant la guerre civile libyenne, l'entreprise britannique Freshfields Brookhouse Deringer conseilla par exemple à ses clients de poursuivre Tripoli au motif que l'instabilité du pays générait une insécurité nuisible aux investissements. Entre les experts, les arbitres et les avocats, chaque contentieux rapporte en moyenne près de 6 millions d'euros par dossier à la machine juridique. Engagé dans un procès de longue haleine contre l'opérateur aéroportuaire allemand Fraport, les Philippines ont même dû débourser la somme record de 58 millions de dollars pour se défendre, l'équivalent du salaire annuel de 12 500 enseignants. On comprend que certains États aux ressources faibles cherchent à tout prix des compromis, quitte à renoncer à leurs ambitions sociales ou environnementales. Non seulement un tel système profite aux plus riches, mais de jugements en règlements amiables, il fait évoluer la jurisprudence et donc le système judiciaire international hors de tout contrôle démocratique dans un univers régenté par l'industrie de l'injustice.
Nous remercions Tania Rocha et Raphaël Desplans pour la lecture des articles. Un grand merci à l'équipe de Radio Django qui nous permet de diffuser les émissions de Le Monde est beau. À la conception, réalisation et mise en onde de cette émission, Patrick Rion, Jean-Luc Rocha, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable, Patrick Rion. À la semaine prochaine.
Look, I have them. Yeah. And we have them. Say, yeah. Well, not true. I won't talk again. You. Not true. I won't talk again. You. If
fa de la yo. Mwen ko si li punish me yo. Mwen ki fa de punish me yo. Mwen ki du mari punish me yo. Mwen ki la de punish me yo. Mwen ki du mari punish me yo. I read down for Buki yo. I see some myself yo. Welly, welly yo.
Well, well.
Fadi la yo, go see me punish me, make you fadi punish me, make you do punish me, make you land punish me. I read down for Buki yo, I see some myself yo, welly welly yo,
well well,
well well, welly welly yo,
well well,
well well. Not true, I won't talk again yo. Fadi la yo. Go see me punish me,
make
you do my punish me, make you land the punish me, make you fat the punish me. I read down for Buki you, I see some myself you, I see some myself you.
Well well, well well,
welly welly you,
well well,
well well. Long time ago, long long time ago. Land in Ashalanga,
long time ago.
For Ibo land in Unusi,
long time ago.
For Hausa land in Salunga,
long time ago.
For Galand in Tiafi,
long time ago.
For Ashanti land in Ayani,
long time ago.
For Ethiopia land in Sakarabet,
long time ago.
For Kikuyu land in Chocho,
long time ago.
For Bemba land in Chimbuzi,
long time ago.
Tunga land in Ijibunzi,
long time ago.
Long, 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 long time ago.
Long time ago.
Africa man, we know they carry shit.
Long time ago.
We dey shit inside big, big hole.
Long time ago.
Long, 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 long time ago.
Long time ago.
Long, 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 long time ago.
Long time ago.
Before them come force us away as slaves.
Long time ago.
During the time them come force us away as slaves.
Long time ago.
The European man na him they carry shit.
Long time ago.
Now for them culture to carry shit.
Long time ago.
During the time them come colonize us.
Long time ago.
Them come teach us to carry shit.
Long time ago.
Long, 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 long time ago.
Long time ago.
African man we know they carry shit.
Long time ago.
The European man teach us to carry shit.
Long time ago.
Many foreign companies they Africa carry all our money go.
Say
ya, many foreign companies they Africa carry all our money go.
Say ya,
them go write big English for newspaper. Dabaru, we Africans.
Say ya,
them go write big English for newspaper. Dabaru, we Africans.
Say ya, say
ya. I read about one of them inside book like that. Them calling him na ITT.
Say ya, say ya.
I read about one of them inside book like that, them calling him na ITT.
Say ya, say ya.
Them go they cause confusion,
confusion.
Cause corruption,
corruption.
Cause oppression,
oppression.
Cause inflation. Them
inflation.
Go they cause oppression,
oppression.
Cause confusion,
confusion.
Cause corruption,
corruption.
Cause inflation,
inflation.
Cause oppression,
oppression.
Cause confusion,
confusion.
Cause inflation,
inflation.
Cause oppression,
oppression.
Oppression, oppression, inflation, corruption, oppression, inflation. Them get one style way them they use. Them go pick one African man, a man with low mentality. Them go give you million naira breads to become of high position here. Him go bribe some thousand naira bread to become one useless chief. Like ratty they do, them go they do. From corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, sidey, sidey, passy, passy, inny, inny, passy, passy, outy, out, passy, passy, pee, 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 passy, passy, inny, in, passy, passy, corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, sidey, side, passy, passy, up, up,
passi passi kona kona passi passi yonda onda passi passi side side then he gradually 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 then he gradually 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 them go be friend friend to journalist friend friend to commissioner friend friend to permanent secretary friend friend to minister friend friend to head of state then start start to steal money start start them corruption start start them inflation start start them oppression start start them confusion start start them oppression start start to steal money start start to steal money like Obasanjo Anabiola
International
Rook
International Titi
International Thief
International Titi
We'll fight them well, well We don't tire to carry any more of them shit.